Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Julien Pereira.
Salut, c'est Arthur Merle.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, avant-dernier épisode de la saison. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Arthur Merle. Comment ça va, Arthur?
Ça va très bien. On se faisait la réflexion avant, c'est pas retrouver, c'est se trouver.
Se trouver, oui. Parce que tu as eu la chance,
cette émission.
Enfin la chance, ou la malchance,
oui.
D'en faire une avec Martin, que l'on salue.
Une autre avec Maxime aussi.
Moi, j'ai eu le droit qu'à Cyril, je crois. Ah non, j'ai eu Glenn aussi.
Et voilà, on varie les plaisirs.
Arthur, avant d'évoquer le sommaire, on va se faire ce petit classique de flash info. Trois infos toutes fraîches que l'on vous donne maintenant.
Alors, on commence avec Tanguy Kouassi, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui est vraiment tout proche du FC Séville. Il est arrivé dans la ville espagnole. Il va s'engager a priori pour un montant estimé à 20 millions d'euros. Il était arrivé libre en Allemagne, donc c'est une belle plus-value pour le Bayern. La deuxième info, elle concerne Alan Virginius, l'attaquant du FC Sochaux, attaquant de 19 ans qui rejoint le LOSC. Là aussi, c'est un montant estimé à 4 millions d'euros. Le LOSC qui a battu la concurrence de Nice sur ce coup-là. Et puis la dernière info, elle concerne l'OM. C'est une double info, on va dire, puisque Issa Kabore, le joueur qui appartient à Manchester City, qui était prêté à 3 la saison dernière, eh bien, va être acheté par l'OM, puisque Fabrizio Romano, toujours très bien informé, parle d'une clause de rachat pour City la saison prochaine. Il va arriver pour être la doublure de Jonathan Clauss à droite. Et puis on a aussi le tout jeune, Saya Sea, 17 ans, milieu offensif de l'Estac, qui va débarquer à l'OM. Le montant n'a pas encore filtré.
Longoria qui continue sa partie de Football Manager. Avant de lancer le sommaire, Arthur, on rappelle à nos auditeurs que vous pouvez bien évidemment retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que vous retrouvez également les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr et que vous pouvez venir nous voir sur Twitter s'il y a des sujets que vous voulez évoquer. Vous pouvez également nous noter. 5 étoiles suffiront largement. On peut passer au sommaire, Arthur. Première partie, on va reparler pour le coup de Cristiano Ronaldo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur son cas. Il y a eu du nouveau en début de semaine. On va essayer de se projeter sur la suite, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Du portugais, Arthur. Et en deuxième sujet, on évoquera le Paris Saint-Germain.
Oui, on va réévoquer là aussi le Paris Saint-Germain, pas pour les mêmes raisons que d'habitude. On a beaucoup évoqué les achats jusqu'ici dans Mercredi Mercato. Et là, on va se concentrer sur les ventes, sur le grand ménage qui est en train de se faire à Paris. On se demandera si finalement Paris n'est pas en train de réaliser le mercato parfait.
Et puis en troisième partie, Oussem Aouar, que l'on imaginait il y a quelques années à Manchester City ou à Barcelone, et qui va finalement probablement atterrir à Nottingham Forest, ancien très grand club de Première Ligue, qui aujourd'hui est un petit peu relégué au second, voire au troisième plan. On essaiera de se demander comment on a pu en arriver là avec Oussem Aouar, et surtout s'il n'y a pas d'autres petits comparatifs à faire avec le passé lyonnais. On est bon ?
On est bon à pouvoir s'en sortir sur Ronaldo.
Allez, Ronaldo, on rappelle le contexte. Le Portugais a manqué une bonne partie de la préparation estivale pour des raisons a priori personnelles. La presse britannique a rapidement révélé que le Portugais souhaitait quitter Manchester United pour disputer la Ligue des Champions. Son comportement a beaucoup été critiqué. On pense notamment à ce match amical face au Rayo Vallecano. Lui, parce que le Portugais a quitté le groupe bien avant la fin du match avec d'autres de ses coéquipiers. Il n'était pas titulaire lors de la première journée de la Première Ligue. Il a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la lourde défaite subie face à Brentford le week-end dernier. Et puis, jusqu'à ce début de semaine, Manchester United, la direction et le manager Erik Ten Hag étaient plutôt pour le conserver. Sauf que The Athletic nous révélait il y a quelques jours qu'ils avaient un petit peu changé d'avis parce que le comportement est jugé trop agaçant ces derniers jours, et Erik ten Hag serait désormais prêt à le laisser partir en cas d'arrivée d'un attaquant, et même la direction de Manchester, qui tenait beaucoup à son joueur pour des raisons marketing et économiques, serait maintenant prête à le laisser filer également. Arthur, après tout ce qu'on vient de se dire et à une quinzaine de jours de la fermeture du mercato, comment tu imagines la suite pour Cristiano Ronaldo ?
Alors, évidemment, c'est très flou. On va reparler de Fabrizio Romano, hein, qu'on cite beaucoup dans cette émission, qui nous disait il y a quelques jours que ce dossier, il va très certainement se conclure si départ il y a, vraiment dans les derniers instants, un peu comme ça s'était passé l'été dernier au moment de son arrivée à Manchester United. Donc partira pas, c'est très compliqué de le savoir pour le moment. On sait que Jorge Mendes cherche des solutions, en tout cas avec la priorité de Ronaldo est de quitter le club, l'Angleterre même. Donc très compliqué de savoir pour l'instant. Moi j'ai une certitude, c'est que Ronaldo il va vouloir rester ultra compétitif avant d'arriver au Mondial cet hiver, que ce soit à Manchester ou ailleurs. Si c'est un Manchester, c'est pas un hasard sa communication, on en reparlera un petit peu après. Il a fait un post Instagram et notamment il dit dans ce post qu'il communiquera dans quelques semaines. Pourquoi il dit ça? Selon moi, c'est parce que s'il est obligé de rester, eh ben, il va arranger toute cette histoire à sa sauce, il va parler des médias, il va se remettre tout le monde dans la poche et il va se remettre à fond dans le projet Manchester parce que tout simplement il n'aura pas le choix, il faudra qu'il continue de jouer, d'être titulaire et d'être compétitif jusqu'au Mondial. Ensuite, s'il part, que ce soit cet été ou l'été prochain, là aussi j'ai une certitude, c'est qu'il va continuer de jouer dans des top clubs, Cristiano Ronaldo. Alors c'est compliqué parce qu'elle est très longue, la liste des clubs qui l'ont un peu recalé ces derniers jours, ces dernières semaines.
On vous la fait d'ailleurs, on vous la met en visuel que vous pourrez trouver sur eurosport.fr. Plusieurs clubs auxquels il a été proposé par son agent Jorge Mendes. Il y a d'abord eu Chelsea, il y a eu le Bayern, il y a eu une discussion avec le FC Barcelone, il y a eu l'Inter, le Milan, ça c'est très récent. Le PSG également, tous ont dit non, reste l'Atlético. On a mis un petit point d'interrogation parce qu'il y a du chaud et du froid. Le président de l'Atlético avait d'abord un petit peu balayé cette information. Finalement, la piste a été un petit peu relancée, notamment parce que The Athletic évoque la possibilité d'un transfert de Morata qui appartient à l'Atlético vers Manchester United. Ça pourrait faciliter les choses. Et aussi parce que les déclats de Simeone le week-end dernier en marge de la journée de championnat de Liga n'a pas dissipé cette possibilité-là. Donc, il y a encore une éventualité.
Voilà, et quoi qu'il en soit, Ronaldo, il est encore très loin d'un départ en MLS ou d'un retour au Sporting. En tout cas, c'est mon avis. C'est un joueur qui, je vais le comparer un petit peu à Zlatan dans la manière dont il fonctionne. Zlatan, il est encore ultra compétitif, en tout cas dans le club dans lequel il évolue. Certes, il y a eu cette pige en MLS, mais il est revenu aider le Milan à gagner la Serie A, etc. Aujourd'hui, Ronaldo a toujours été fait du même bois, et surtout, il est en pleine forme physique encore. Donc, à 37 ans, il reste, depuis son départ du Real Madrid, il reste sur 4 saisons, avec seulement 13 matchs ratés sur blessure. Ça fait une moyenne de 3 matchs manqués sur blessure par an à peu près. Voilà, il est au top de sa forme et il est encore compétitif sur le terrain. On va encore rappeler sa très bonne saison dernière en termes de statistiques. Donc, tous les voyants sont cochés pour qu'il puisse continuer à jouer au top niveau. Tous les voyants, sauf la volonté des potentiels clubs, parce qu'on l'a déjà dit et répété, il faut arriver à intégrer Ronaldo dans un projet. Pour moi, il y en aura au moins un qui va arriver à le faire.
Tu évoquais les voyants au vert. Moi, je vois quand même un voyant orange. Beaucoup comparent ce qu'il fait là à ce qu'il avait fait la saison dernière pour quitter la Juventus. La différence, c'est que la saison dernière, il n'avait pas eu besoin d'aller aussi loin. Moi, j'ai très bien compris le choix de départ, à savoir, il se considère encore compétitif. Il l'est effectivement. Il pense qu'il a le niveau pour performer en Ligue des Champions, donc il veut quitter Manchester United. Moi, ça, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre personnellement. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que Ronaldo a bâti, grosso modo, toute sa carrière sur son professionnalisme et sa rigueur. Là, j'ai quand même l'impression que tout ce qu'il fait, à la fois sur et en dehors du terrain, parce qu'on a vu son match face à Brentford, il y a eu très peu de gestes envers Ten Hag, envers ses coéquipiers. Alors si, il y en a eu au début, mais c'était plutôt des gestes d'humeur et d'agacement. Très peu de gestes vis-à-vis des supporters de Manchester United aussi, c'est important. Et donc j'ai peur que Ronaldo pousse le bouchon trop loin à tel point que finalement il atteigne un point de non-retour et que ce soit rédhibitoire pour la suite de sa carrière. C'est un petit peu finalement comme si Ronaldo n'était plus tout à fait Ronaldo et pour moi c'est ce qui est le plus perturbant. Je pense que sur ce que tu dis sur les prochaines semaines, prochains mois, tu as raison, parce qu'effectivement, il y a cette Coupe du Monde qui sera probablement sa dernière Coupe du Monde, et peut-être même sa dernière grande compétition internationale avec le Portugal. Et évidemment qu'il ne laissera pas ça passer. Donc oui, sur son envie et sur ce qu'il fera dans les prochains mois, prochaines semaines, il sera encore capable de performer. J'ai quand même peur que son statut soit un peu dégradé et que ça devienne vite ingérable pour lui à Manchester United.
Moi, je reste quand même persuadé qu'il y a deux choses, et on l'a déjà vu avec d'autres exemples dans le passé. Tant que la communication redevient soignée et que sur le terrain tout se passe bien, on a tendance à rapidement oublier les choses. On l'avait vu par exemple au PSG, on a eu deux exemples récents. Les étés mouvementés de Neymar puis de Mbappé. Derrière, les choses se sont remises en place un petit peu toutes seules. Alors, il y a quelques séquelles, bien sûr, mais si ces deux éléments-là sont présents, c'est-à-dire le body language et la communication, ainsi que les performances, je reste persuadé que tout ira bien à terme. Dès la fin du mois de septembre, on aura oublié tout ça. On va peut-être rappeler, vous lire même sa déclaration sur Instagram. C'était il y a quelques heures.
Absolument.
« Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J'ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n'ont eu bon qu'à 5 reprises sur les 100 informations qu'ils ont données. » Donc imaginez comment ça se passe. C'est très précis, c'est très détaillé. A priori, il y a même un fichier Excel.
On a hâte de voir le carnet de notes de Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines.
Bon, en tout cas, sur Ronaldo, on a été plutôt complet. On va pouvoir enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Alors, on le disait en introduction, le PSG, on vous en a déjà parlé dans Mercredi Mercato. Plutôt dans le sens des arrivées. La dernière fois, on évoquait Renato Sanchez. Et là, on va se pencher sur le grand ménage qui est en train d'être effectué dans la capitale. Il y a beaucoup de départs qui sont en train d'être actés ou qui ont déjà été actés. On va vous les rappeler. Les départs actés, c'est Arnaud Kalimuendo pour 20 millions d'euros. Du côté du Stade Rennais, il y a eu Alphonse Areola, Marcin Boulka, j'avais peur d'écorcher son prénom. Dagba en prêt à Strasbourg, Wijnaldum aussi en prêt à la Roma, même le jeune Tierno Balde du côté de Troyes. Et puis là, il y a des mouvements qui vont se conclure. Thilo Kehrer proche de West Ham, Dina Ebimbe proche de Francfort, Idrissa Gueye d'accord avec Everton, il faut que les deux clubs maintenant se mettent d'accord. Paredes, ok avec la Juve, là encore, les deux clubs doivent se mettre d'accord. Navas vers Naples, Rafinha a priori proche d'aller au Brésil. Donc là, on est sur quelque chose qui, tout doucement...
Un grand ménage.
Ressemble à un grand ménage et commence à ressembler à un mercato parfait, notamment grâce à Antero Henrique.
Oui, on en parlait, je crois que j'en parlais dans l'une des toutes premières émissions de la saison. Honnêtement, personnellement, moi, j'y croyais pas trop à ce grand dégraissage dont le PSG avait besoin. Malgré la présence de Luis Campos, malgré le retour aux affaires d'Antero Henrique, malgré le fait que Christophe Galtier est très clairement dit dès le début qu'il voulait travailler avec un effectif restreint à 22-25 joueurs, grosso modo. Malgré aussi ce besoin de contenir les dépenses à 80 millions d'euros sur cette fenêtre estivale. Je pensais tout simplement que c'était mission impossible en raison de la situation contractuelle des joueurs indésirables, entre guillemets, au PSG et de leur salaire, évidemment. Je pensais que c'était une mission impossible parce que c'est quasiment un cas unique en Europe, à l'exception peut-être de Manchester United, justement. J'étais persuadé que c'était impossible. Finalement, on se rend compte que, aussi bien Antero Henrique, Luis Campos, alors on a vu dans un article très intéressant de l'équipe publié hier, les deux travaillaient très bien en bonne communication, en bonne entente, j'ai quand même l'impression qu'ils ont réussi à faire ce que Leonardo n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire aller chercher les bons interlocuteurs pour pouvoir vendre. Je pense par exemple à Paredes, même si ce n'était pas le premier joueur à devoir quitter le Paris Saint-Germain, Paredes, on a vu que la Juventus s'apprêtait à faire partir Rabiot. Eh bien, le PSG a proposé une solution à la Juventus avec Paredes. Je pense aussi à Dina Ebimbe, qui est peut-être le joueur dont on va le moins parler sur cet été, mais finalement, il se dirige vers l'Allemagne. Et là aussi, il y a de vrais arguments, parce qu'on sait que des joueurs qui quittent le PSG ou même qui quittent la Ligue 1 pour aller en Bundesliga, ça fonctionne très bien. Donc tout ça, c'était plutôt intelligent aussi. Et puis on peut évoquer le cas Gueye qui va retourner à Everton et qui a laissé un plutôt bon souvenir là-bas. Donc c'était aussi une piste assez évidente. Donc finalement, oui, on se posait la question il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je crois, sur le fait, est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à faire un mercato parfait? On avait mis ce petit bémol des ventes. Bah, finalement, même sur les ventes, le PSG va réussir son coup.
Après, il y a quand même quelques petites réserves, même grosses pour certaines. La première, c'est que déjà, il y a des cas qui ne sont pas réglés et des cas pas des moindres. Le cas Ander Herrera, par exemple, pourrait se terminer de manière assez compliqué pour le PSG, c'est-à-dire qu'ils vont résilier son contrat et qu'ils vont lui devoir une indemnité. Donc, ce n'est pas vraiment les plans initiaux. Herrera qui devrait rejoindre Bilbao. Il y a aussi Draxler, dont on n'a absolument pas entendu parler pendant ce mercato. Kurzawa, j'en parle même pas. Et puis Mauro Icardi. Donc ça, c'est quand même des dossiers assez lourds, vu les salaires des principaux intéressés, qu'il va falloir régler, qui ne sont pas tout à fait réglés, même loin de là. Le deuxième problème, c'est les moins-values du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Paredes, il a été acheté 40 millions d'euros, il sera vendu au mieux moitié moins. Idrissa Gueye, il avait été acheté 30, je pense que là, on sera plus aux alentours des 10-15 millions d'euros. Kerrer avait été acheté 37 millions d'euros. Là, a priori, on part sur une dizaine de millions d'euros. Voilà, la liste est longue, même pour Draxler qui avait été acheté 36, Kurzawa acheté 25. Bref, il y aura pas mal de moins-value.
On pourrait être grosso modo à 100 millions d'euros de moins-value, même si faut évidemment considérer l'amortissement avec la durée du contrat. Un joueur qui arrive pour 40 millions, c'est sur 5 ans globalement, par exemple. Et donc, il faut lisser cette somme-là sur les 5 années de contrat. Mais quand même, c'est des chutes de valorisation qui sont assez vertigineuses. Icardi, on peut prendre l'exemple Icardi. Combien vaut Icardi aujourd'hui après avoir passé quasiment un an sans jouer, enfin 8 mois sans jouer? C'est très compliqué. Après, effectivement, c'est un bémol. Effectivement, on imaginait que le PSG pourrait tirer plus de de ces transferts-là. C'est quand même difficile de les imputer au trio Campos-Galtier-Antero-Henrique, même si Antero-Henrique a aussi participé à l'arrivée de certains de ses joueurs il y a quelques années maintenant. Et puis l'autre chose, c'est que c'est finalement pas une surprise que Paris ne parvienne pas à se séparer de tous ces indésirables en une seule fenêtre de mercato.
Oui, et puis il y a aussi le fait que là, pour certains joueurs en tout cas, le problème est un petit peu repoussé l'année prochaine, parce que Wijnaldum, rappelons que c'est qu'un prêt, absolument, par exemple. Donc à voir quelle forme vont prendre les opérations Paredes, Idrissa Gueye. Est-ce que ce seront des transferts secs, des prêts avec option d'achat, des prêts avec obligation d'achat? Il y a encore pas mal de questions sans réponse. Une dernière chose que je trouve dommage, c'est le cas Arnaud Kalimuendo.
Je sais que ça te chagrine.
Ça me chagrine un petit peu, parce que là, on entend quand même que le PSG veut compléter son attaque avec un attaquant supplémentaire, et qu'en fait, il a été un petit peu contraint de vendre Kalimuendo. Je pense que ce n'était pas l'un des indésirables qui était sur le haut de la liste. Ils l'ont vendu pour une jolie somme, 20 millions d'euros, mais Kalimuendo, il aurait permis au PSG de se faire un petit peu moins de soucis sur cette fin de fenêtre estivale. Alors après, on peut se dire que Galtier a peut-être envie d'un profil complètement différent, plus grand, plus athlétique. C'est peut-être le seul argument.
Et puis on peut imaginer qu'il y a aussi l'avis du joueur qui a compté, que lui voulait plus de temps de jeu. Mais effectivement, Paris s'est débarrassé d'un joueur qui était intéressant. Il y avait un gros potentiel pour une somme certes intéressante, mais on sait que derrière, Paris dégraisse pour pouvoir racheter. Galtier attend toujours un joueur par ligne, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant. On évoquait Skriniar en défense, ça s'est un petit peu refroidi ces dernières semaines. Fabian Ruiz, lui, devrait arriver au milieu de terrain après tous ses départs, et reste évidemment l'attaquant.
Ouais, donc on aura un PSG qui aura tous les postes doublés, à voir comment ça se passera derrière, mais plutôt intéressant en termes de qualité et de quantité d'effectifs du coup.
On a fait le tour sur le Paris Saint-Germain, Arthur, on peut passer un autre sujet qui te tient à cœur,
bien sûr.
C'est Oussem Aouar. Oussem Aouar qui va vraisemblablement quitter la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais pour l'Angleterre et Nottingham Forest. C'est RMC qui annonce qu'un accord a été trouvé entre le joueur et le club anglais, que des négociations sont en cours entre Nottingham et Lyon et que ce transfert pourrait se boucler autour d'une quinzaine de millions d'euros, Arthur. On a quand même l'impression globalement, que c'est un gros gâchis.
Pour résumer tout ça, il suffit de comparer été 2020, été 2022, et là, la chute, elle est vertigineuse. Rappelez-vous, été 2020, Final 8, Oussem Aouar qui sort une énorme prestation face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. Ça avait déjà été le cas à l'hiver 2018 en phase de poule contre City. Hein. Rappelez-vous le nul et puis la victoire de l'OL contre les Citizens. À ce moment-là, donc été 2020, vous avez des images de Aouar qui fait une accolade à Pep Guardiola à la fin d'un match. Vous avez Kevin De Bruyne qui loue les talents de Oussem Aouar. Vous avez un joueur qui est à l'époque associé à des rumeurs justement de départ vers City. On parle de montant de 40 millions d'euros. On parle même d'une offre de la Juve de 60 millions d'euros. À l'époque, je crois que c'est Foot Mercato qui le disait. Aujourd'hui, vous avez un joueur qui va rejoindre un promu de Première Ligue contre 15 millions d'euros, montant relativement faible par rapport à son profil et par rapport au championnat qu'il va rejoindre aussi. Hein. C'est la Première Ligue qui dépense des montants faramineux pour des joueurs parfois moyens, même s'il ne reste qu'un an de contrat à avoir, il faut le rappeler. Donc le parallèle, il fait extrêmement mal pour Houssem Aouar, même le parallèle en sélection, puisque octobre 2020, il fête sa première cape avec l'équipe de France, et que là, la Gazette des Fennecs, si j'écorche le nom, nous indique qu'il va rejoindre a priori la sélection de Djabel Belmadi, l'Algérie, donc lors du rassemblement de septembre. Et ce qui est terrible, c'est qu'entre-temps, Houssem Aouar, il a joué presque tous les matchs de l'OL, il a raté que 10 matchs de Ligue 1. Donc le constat, c'est le suivant, c'est qu'en fait, Aouar a complètement cessé de progresser.
Oui, il a complètement stagné, et c'est ce qui a globalement fait chuter sa valeur marchande. Alors tu le rappelais à très juste titre, il lui reste un an de contrat, donc évidemment, ça n'aide pas à récolter une grosse somme pour l'Olympique Lyonnais, mais quand même, on a vu des joueurs à qui il reste un an de contrat partir pour beaucoup plus cher. Et oui, Aouar, on a l'impression que depuis ce fameux Final 8, il y a eu quasiment deux saisons pour rien, parce qu'on n'a rien vu de plus que ce qu'on savait déjà d'Aouar, c'est-à-dire qu'il est talentueux, qu'il est aussi très irrégulier, et que finalement, on n'est pas certain qu'il puisse vraiment viser beaucoup plus haut, parce que tu le disais, on l'imaginait à City, on l'imaginait au FC Barcelone. On vous a fait d'ailleurs un petit tableau récapitulatif de sa valeur marchande. En juin 2018, elle était à 35 millions d'euros. En mars 2020, elle était à 55 millions d'euros. C'est le pic, c'est selon Transfermarkt, le pic atteint par Houssem Aouar. Et donc aujourd'hui, il va partir pour une somme tournant autour de 15 millions d'euros. Finalement, à qui la faute, Arthur ? Au joueur pour ses performances moyennes pendant deux saisons ? Aussi un petit peu au club qui n'a pas été capable de le vendre quand il le fallait.
Oui, il y a un petit peu des deux, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à l'OL d'avoir voulu attendre pour le vendre ?
Disons que c'était difficile après le Final 8 d'imaginer Aouar stagner pendant deux ans.
Exactement.
Je peux très bien comprendre la réflexion de l'OL à ce moment-là et de se dire c'est un joueur jeune, c'est un joueur qui a encore du potentiel et donc probablement qu'on pourra en tirer beaucoup plus dans un an ou deux ans. Malgré cela, l'autre côté de la pièce, on peut aussi se dire que l'OL a quand même beaucoup de mal à se séparer des joueurs de son cru. On se souvient que Lacazette avait été retenu, même s'il a été très bien vendu ensuite à Arsenal. On se souvient de Fekir aussi, qui devait partir à Liverpool pour des sommes dépassant 60 millions d'euros et qui finalement est parti il y a 3 ans maintenant au Betis pour 20 millions d'euros dans un club qui est globalement un club intermédiaire. En tout cas, on l'attendait beaucoup plus haut. Donc, je dirais que les torts sont partagés, en tout cas c'est mon avis, je ne connais pas le tien, mais pour moi c'est à la fois de la faute du joueur, aussi de celle de son club qui a un petit peu de mal à se séparer de ses joueurs.
C'est le chien qui se mord la queue, parce qu'en fait, à l'époque, qu'est-ce que pouvait reprocher quelle était la seule limite d'Aouar en 2020 ? C'était son irrégularité. Mais qu'est-ce qu'on mettait ça sur le compte de son âge, en fait. Il était jeune, il aura le temps de gommer ce défaut-là, se dit-on à l'époque. Sauf que ce défaut, il ne l'a pas gommé, et plus que ça, il a symbolisé l'irrégularité de l'OL. Donc, Aouar a été victime de cette irrégularité aussi, hein, d'un 11 qui, à chaque fois, avait du mal à enchaîner, de changements sur le banc aussi, beaucoup. Mais à la fois, il a symbolisé ce problème-là. Donc, on est un peu rentré dans un cercle vicieux, et c'est devenu très compliqué pour tout le monde. Donc, les torts sont partagés, mais j'ai quand même tendance à penser que la faute, entre guillemets, revient surtout à Houssem Aouar, qui n'a pas su progresser sur plusieurs points, notamment sur les 30 derniers mètres, je trouve, où il est resté très fade dans la finition, trop tendre en tout cas. Il a progressé physiquement, il s'est étoffé avec le temps, et c'est ce qui plaisait d'ailleurs dès 2020 au championnat anglais. Mais il y a beaucoup trop de domaines dans lesquels il n'a pas progressé. On parlait de la finition, on parle de la régularité aussi. Ça fait beaucoup de choses qui expliquent ce constat qu'on fait aujourd'hui.
Finalement, à Nottingham, il pourra se montrer et se jauger par rapport à l'intensité du foot anglais. Même si moi, personnellement, je l'aurais un petit peu plus imaginé, soit en Espagne, soit en Italie, même si ce n'était pas le Barça ou le Milan, par exemple.
Après, si on repense en fait à 2020 et ces fameux matchs contre City, dans un double pivot avec une défense à 3, il était quand même aligné à côté de... Alors, Ndombele en 2018 et 2020, ça devait être Touzard, si je ne dis pas de bêtises. Il avait quand même beaucoup de choses à faire et un gros, gros volume de jeu. Donc, je pense que c'est ça qui a tapé dans l'œil de City, notamment à l'époque. Donc, s'il retrouve cet état de forme et le volume de l'époque, Pour moi, il a toutes les qualités pour s'imposer en première ligue. Et rappelons qu'il est encore tout jeune quand même. On a l'impression là qu'on parle d'un joueur en fin de carrière. Certes, il a stagné deux saisons. Certes, il va partir pour un prix décevant. Mais rappelons qu'Aouar, il a 22 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Je dirais 23.
23.
J'ai un doute.
Il est pas vieux. En tout cas, il a encore tout l'avenir devant lui, même si aujourd'hui, on voit des joueurs de plus en plus précoces. Donc, il a tout le temps de se refaire la cerise dans un championnat qui pourrait le mettre en valeur.
Eh ben, on va suivre ça dans les prochaines semaines. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. C'est la fin de cette émission, Arthur, déjà.
C'était
un vrai plaisir.
On n'a même pas de Merca Quiz.
Pas de Merca Quiz parce que notre ami Quentin Guichard se dort la pilule tout l'été. On le retrouvera, je crois, la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Arthur, merci beaucoup. Merci à Marco Popovic qui a pris le relais et qui, lui, est particulièrement talentueux, contrairement à d'autres. Sur les visuels, merci à Marion pour la régie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On rappelle que vous pouvez écouter et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr. Et Arthur, vous le retrouvez partout, sur Twitter, sur les réseaux, sur les podcasts, sur Jean Triangle. On retrouve partout, Arthur.
Restons modestes. En tout cas, déjà, vous, retrouvez-nous, ça sera déjà très, très bien. Écoutez-nous si vous êtes encore sur vos transats, ou si vous êtes à la reprise, pendant vos footings. N'hésitez pas, et on se retrouve avec plaisir une prochaine fois. Là.
Salut Arthur, salut à tous.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.